Jean-Baptiste Giraud.
Dans une poignée de minutes ce matin, la nation rendra hommage aux quatre soldats français tombés le week-end dernier dans une embuscade en Afghanistan. Une guerre entamée voici plus de 10 ans et dont le bilan est bien sombre. Quand l'OTAN partira, le pays retombera probablement dans le chaos. En Irak aussi, le retrait des alliés a laissé la place à un grand n'importe quoi. 55 morts encore hier dans un attentat à Bagdad. Au Moyen-Orient, plusieurs pays sont à feu et à sang. Et bien sûr, la menace iranienne reste toujours aussi vive, même si les feux des projecteurs médiatiques sont un peu plus tournés au nord et à l'ouest de la région en ce moment. Ajoutez à cela un peu de Corée du Nord et quelques autres États rebelles de par le monde. Saupoudrer le tout de prolifération nucléaire, de vente d'armes illicites et de technologies de pointe quasiment disponibles en accès libre sur Internet, et vous obtiendrez une potentielle nouvelle menace venue du ciel. La guerre des étoiles, nouvelle version, a-t-elle commencé? C'est notre sujet du jour dans La Voie est libre. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir en plateau le général Jean-Bernard Pinatel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de géopolitique et d'intelligence économique. Votre dernier livre, paru en 2011, est Russie, Alliance Vitale, paru aux éditions Choiseul. Et vous avez également un blog, allez, réservé aux spécialistes, mais qui est très largement consulté malgré tout, géopolitique-géostratégie.fr. Avec nous également en plateau, Alain Dupas. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert en politique, technologie et stratégie spatiale, expert auprès de la Banque européenne de reconstruction et de développement. Vous êtes chercheur à l'université George Washington aux États-Unis, bien sûr, et vous êtes auteur de, alors ça c'est audacieux quand même, il faudra que vous nous en parliez, Demain nous vivrons tous dans l'espace, paru aux éditions Robert Laffont l'an dernier. Demain c'est quand pour vous, juste pour qu'on sache?
C'est quelque part dans ce siècle.
Quelque part dans ce siècle, plutôt au début, plutôt à la fin?
Plutôt à la fin.
Plutôt à la fin. Là, on va en parler dans quelques instants. 0156 2x44 00, c'est le standard des auditeurs de La Voie est libre. Vous pouvez nous appeler, bien évidemment, cette émission est en direct pour parler, dialoguer avec nos invités et pour nous poser votre question, vous faire part de vos réactions, vos témoignages. D'abord et avant toute chose, quelle est cette nouvelle menace venue du ciel? Et d'abord, est-ce que même il y a une nouvelle menace où on a toujours été menacé du ciel depuis que les missiles intercontinentaux ou les missiles de proximité existent? Alain Dupas d'abord et après le général Jean-Bernard Pinatel.
Si vous parlez du ciel, là,
je parle pas des comètes. Hein.
Non, mais dans le ciel, vous avez depuis maintenant plus d'un siècle des avions. Et les forces aériennes jouent un rôle absolument essentiel dans les affaires stratégiques et militaires, bien sûr. Et depuis, c'est devenu vraiment une force presque dominante. Donc, dans les grands affrontements, l'espace c'est très très particulier. Il n'y a pas véritablement de menace venue de l'espace. L'espace c'est un endroit où on place des satellites qui servent essentiellement à apporter des informations et à soutenir les opérations des forces dans l'air, dans le ciel, donc et puis sur la terre et sur les mers.
Oui, pendant la guerre froide, il y avait des projets de satellites porteurs d'armes atomiques. Est-ce qu'ils existent? Il y a le mythe qu'ils existent, mais que personne n'en parle et ils soient masqués par les deux ex-superpuissances.
Non, vous savez, c'est plutôt au moment où démarrer vraiment l'ère spatiale, et c'était aussi le moment où se mettait en place vraiment la dissuasion nucléaire. Vous savez qu'à la fin des années 50, eh bien les deux superpuissances qui s'affrontaient pour la domination du monde, eh bien ont disposé de l'arme thermonucléaire. C'était le vrai tournant technologique dans la guerre froide, c'est donc vers 1955. Ensuite, ils ont disposé de missiles intercontinentaux. Et à partir du moment où chacun pouvait détruire l'autre, la question qui se posait, c'est comment est-ce que je vais pouvoir protéger mes missiles de manière à être capable de porter des coups à mon adversaire, même si celui-ci m'attaque et provoque chez moi des destructions considérables. Donc vraiment, la dissuasion, ça marche si, au cas où votre adversaire vous attaque, détruise toutes vos installations, bah, vous êtes encore capable de lui répondre et de le détruire en réponse à son attaque. Donc pour ça, il faut avoir des missiles qui soient protégés. Alors à l'époque, on a réfléchi à différents modes de protection de ces missiles, et dont l'un de ces modes, c'était de mettre ces missiles très loin dans l'espace. Même sur la Lune, l'US Air Force a réfléchi à l'époque à mettre des missiles sur la Lune ou à mettre des armes nucléaires en orbite. Mais ce qui s'est très vite avéré, c'est qu'il y avait deux solutions qui étaient terrestres, qui étaient beaucoup plus simples et efficaces. L'une, qui est toujours celle qui est vraiment prédominante pour les forces de dissuasion, dont la force française, hein, c'est les sous-marins nucléaires, parce que au fond de l'eau, sous l'eau, vous êtes vraiment très très bien caché. Et puis l'autre, c'était de mettre les missiles dans des silos très très protégés.
Et en plus, on peut s'approcher des côtes de l'ennemi, donc on tire plus vite.
Vous savez, il n'y a pas besoin de ça, parce que maintenant, les missiles tirés de sous-marins ont des portées qui vont à 8000 km. Vous pouvez tirer de n'importe où.
À des vitesses.
Un missile intercontinental a une vitesse de 25 000 km/h et il met une demi-heure entre son point de lancement et son point d'arrivée. Donc l'espace, si vous voulez, s'est avéré très vite que c'était pas une bonne solution de baser des missiles dans l'espace.
Donc votre réponse, vous, Alain Dupas, c'est qu'il n'y a pas a priori de satellites tueurs ou porteurs d'engins nucléaires dans l'espace.
Non, il y en a pas. Ça, c'est une certitude. On sait quand même très bien ce qu'il y a dans l'espace. En particulier, les Américains quand même fournissent beaucoup d'informations à cet égard. C'est les seuls aujourd'hui qui ont un système de surveillance de l'espace vraiment efficace. On sait très bien. Mais si vous voulez, c'est pas simplement une question. C'est que sur le plan stratégique, ça ne porte pas d'intérêt. Après, on a beaucoup parlé avec le président Reagan beaucoup plus tard. Hein, là, je vous parlais du début des années 60, hein, quand on a commencé à mettre des missiles dans les sous-marins et puis dans des silos sur la Terre et pas dans l'espace. Et puis à partir de, disons, des années de 1983, vous avez eu ce concept qu'on a appelé la guerre des étoiles, qui était l'initiative de défense stratégique du président Reagan. Et là, c'était un concept très différent. Vous savez, les Américains n'ont jamais vraiment accepté le concept de dissuasion. L'idée que votre adversaire peut vous détruire, mais que bien sûr, vous pouvez vous aussi le détruire après, c'est pas quelque chose qui est bien dans la philosophie américaine. Philosophie américaine, on se défend. Alors donc, le président Reagan, en 1983, a engagé une initiative visant à développer un bouclier pour arrêter les missiles nucléaires. Alors, ça a été quelque chose de très déstabilisant pour les Soviétiques, parce que les Soviétiques, ils avaient une certaine tendance à croire que les Américains, avec leur niveau technologique, pouvaient faire tout ce qu'ils disaient. En réalité, on n'était pas capable à l'époque de mettre en place un bouclier, et aujourd'hui, près de 30 ans plus tard, on n'est toujours pas capable de faire un vrai bouclier
contre les armes nucléaires.
Mais si vous, je termine avec ça, ça a quand même mis dans l'idée du public qu'il y avait une guerre des étoiles. Ça a joué un rôle sur le plan psychologique. Encore une fois, les Soviétiques ont investi massivement dans des systèmes visant eux aussi à développer un bouclier ou à être capable de percer le bouclier. Ça a contribué incontestablement à ruiner le pays et à faciliter, disons, son effondrement. Mais la guerre des étoiles n'a jamais été réalisée suivant les concepts de Reagan. C'était une idée brillante, c'était une idée bien en avance sur son temps. Et il y a une autre solution beaucoup plus simple qui serait de faire un désarmement nucléaire. Mais Reagan,
bon,
c'était ça aussi.
On va en parler, mais bon, vous nous avez planté le décor pour toute l'émission. Général, vous avez commandé quand même pendant quelques années. Lorsque on commande des hommes qui ont pour vocation, lorsque le président de la République leur demande, à se projeter sur un théâtre d'opération, savoir que Allez, dans un bureau à Paris, quelqu'un peut appuyer sur un bouton ou taper un code sur un ordinateur et puis détruire l'adversaire, c'est pas, le mot frustrant est peut-être pas adapté, mais c'est pas bizarre, curieux de se dire que à côté du combat, allez, au corps à corps qui, à défaut d'avoir disparu, s'est profondément modernisé, il y a un autre combat qui passe par des avions et puis des missiles.
Alors, j'ai une double réponse hein, là-dessus. La première réponse, c'est que dans l'armée, on n'envoie pas les gens au combat sans leur expliquer un peu les choses. Hein. Donc, on était totalement au fait de la doctrine de dissuasion et on était bien persuadé que l'hypothèse d'une première frappe des Soviétiques n'existerait pas dans
l'ennemi
la mesure
orange
même.
À partir des années 80, si je me souviens bien.
Oui, mais même quand ils ont mis les, quand ils ont remplacé, qu'ils ont mis les SS-20, si vous voulez, c'était une menace, mais on se disait, on pensait beaucoup plus, et d'ailleurs on se préparait à une attaque du pacte de Varsovie avec des chars, et c'était nous qui prenions avec l'arme nucléaire tactique, dans le cas où nos intérêts vitaux seraient touchés, de tirer sur les forces adverses avec des armes nucléaires tactiques.
Alors, donc, précisons, donc, là déjà on a, oui. on a nos auditeurs qui disent, oui. Ah c'est quoi la différence, l'arme nucléaire tactique, l'arme nucléaire...
Eh bien,
alors,
voilà. Donc, oui, l'arme nucléaire tactique, c'est une arme qui sur un missile de très courte portée, qui a pour but de détruire les forces adverses en évitant, si possible, de tuer des populations aux alentours.
Donc voilà. C'est une frappe très localisée, mais très efficace.
Très efficacité, parce qu'on savait, on avait, du temps du pacte de Varsovie et des forces de l'OTAN, on avait une infériorité numérique en chars et en moyens de combat sur une balance des forces qui était à notre désavantage. Du moins, on avait moins pris en compte. Du moins, les Américains ne prennent jamais ça trop en compte, d'ailleurs. Le moral de l'adversaire, leur capacité d'organisation, ils comptabilisent tout ce qu'ils savent comptabiliser, et c'est comme ça qu'ils font la balance des forces. Donc on était dans cette logique-là. Moi, je n'y étais pas personnellement. Je commandais un régiment de mécanisés en Allemagne pendant ces moments-là. Et au moment où on a eu la crise des SS-20, on avait sur le terrain un moral très élevé parce qu'on savait l'état déjà de délabrement qui existait dans le moral des forces soviétiques.
Oui, vous êtes en train de nous dire qu'en gros, il y avait deux fois plus de chars et de matériel d'un côté, mais que vous disiez, oui, mais on va leur mettre une pâtée parce qu'ils seront démoralisés au premier coup de Trafalgar.
Moi, j'avais même écrit un ordre du jour à mon régiment. On leur avait promis qu'on irait défiler sur la place rouge si les Russes nous attaquaient. Donc, si vous voulez, c'était... Donc, c'est pour vous dire, même le moral était élevé.
Général, on ne va pas refaire cette bataille-là, mais avec du recul, et sachant ce que l'on sait maintenant de l'explosion de l'Union soviétique et de ce qu'elle est devenue et ce qu'elle était déjà avant d'exploser... Effectivement, c'était rationnel comme raisonnement, les informations étaient bonnes, les chars seraient tombés en poussière, en un claquement de doigts parce que l'intendant suivait pas et que les hommes n'avaient pas la patate.
Non, je pense que le vrai problème était le problème des militaires. On avait quand même des informations importantes après l'invasion de la Tchécoslovaquie. Et il y avait eu un certain nombre de déserteurs qui étaient partis et on avait exploité évidemment tout ce qu'ils nous disaient. Et il y avait un mensonge permanent, d'ailleurs qui a toujours existé et qui reste...
Qui est le mensonge communiste d'ailleurs en fait.
Oui, qui est le mensonge communiste et qui masquait toujours la réalité, le niveau de capacité opérationnelle, le niveau d'entretien des matériels.
C'était une Potemkin armée en quelque sorte, oui, comme on dit les Potemkin Dorf.
Depuis Catherine II, ils ont toujours su dissimuler la vérité. D'ailleurs, c'est une grande capacité...
On exporte du blé alors que son peuple meurt de faim et tout.
D'accord. Voilà, donc c'était... Et quand je dis ça, je ne suis pas du tout anti-russe, au contraire. Moi, j'aime beaucoup... Je suis quelqu'un qui les apprécie fortement.
Je rappelle votre livre.
Je suis très anti-soviétique, c'est très différent.
Votre ouvrage aux éditions Choiseul. Aux éditions Choiseul, vous avez publié l'an dernier un ouvrage qui s'appelle « Russie, alliance vitale ». Vous nous en parlez, voilà.
Je voudrais quand même dire une chose... Ce qu'a dit monsieur, je rejoins totalement l'historique qu'il a fait. Hein. Je n'ai pas ajouté une virgule. Comme vous avez parlé quand même de menaces, je voudrais quand même dire pour nos auditeurs, il y a que la technologie, elle est neutre. C'est quand il y a quelqu'un qui a une volonté d'utiliser la technologie d'une façon agressive qui a une menace.
Alors justement, que risque-t-on aujourd'hui en 2012 donc des missiles, il y en a chez les Américains, chez les Russes maintenant, il y en a chez les Anglais, il y en a chez les Français puisque nous sommes dotés de cette arme-là.
Il y en a chez les Chinois.
Et il y en a chez les Chinois,
puis il y en a chez les Indiens, oui, et il y en a chez les Pakistanais.
Il y en a chez les Israéliens.
Et les Israéliens, il y en a, ils ont 250 à peu près armes nucléaires, tout le monde le sait, mais on n'en parle pas.
Et puis, il y a ceux qui l'auraient peut-être, pourraient l'avoir, se sont fait aider pour l'avoir. Les Irakiens ne l'avaient pas, mais on a cru qu'ils l'avaient, on nous a fait croire qu'ils l'avaient.
Non, mais alors ça, c'est la fabrication de la menace dont est très tout à fait capable l'administration américaine, et ça sera aussi une partie de notre débat. C'est également ce qu'on nous dit sur la menace iranienne, qui pour moi est inexistante. Et la réponse qu'on veut faire à cette menace inexistante est totalement inappropriée. Donc
Donc pour vous, la menace iranienne dont on parle depuis de nombreuses années, mais en particulier ces derniers mois dans les médias, avec la question récurrente, est-ce qu'on attaque à titre préventif l'Iran pour l'empêcher de disposer de l'arme atomique?
C'est une escroquerie de plus après celle des armes de destruction massive. L'Iran.
Pourtant, ils ont bien des centrifuges.
Peut constituer une menace, mais il faut quand même regarder si on rentre dans ce débat-là. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que menace l'Iran. Alors, l'Iran menace effectivement la vie des Israéliens, non la survie d'Israël, au travers du Hezbollah. L'Iran menace la suprématie de l'Arabie saoudite dans la péninsule arabique et en contrôlant plusieurs îlots du détroit d'Ormuz peut menacer éventuellement la route du pétrole. Bon, mais en aucune façon l'Iran menace l'Europe. Et cela justifie le déploiement d'un bouclier antimissile. Voilà, donc l'Iran...
Alors, Alain Dumas, là-dessus. L'Iran est une menace ou pas? C'est un mensonge de plus ou pas?
Je pense que l'Iran a un discours qui est extraordinairement soit maladroit, soit au contraire trop adroit. C'est au niveau du discours, l'Iran est incontestablement menaçant pour ses voisins et en particulier pour Israël. Bon, je reviendrai juste un instant sur l'Irak parce que autant pour la deuxième guerre d'Irak, la deuxième guerre du Golfe, il n'y avait pas d'armes de destruction massive, autant lorsque...
Donc la deuxième, c'est celle en ce moment, elle n'a pas qui se termine.
Lorsque l'Irak a pris l'initiative d'envahir le Koweït et de provoquer une réaction internationale qui a provoqué la destruction de sa puissance militaire, à ce moment-là, l'Irak avait vraiment un programme de développement d'armes nucléaires, de missiles, etc. Et était tout à fait avancé. Et c'est d'ailleurs tout à fait intéressant de voir qu'un régime totalitaire peut s'aveugler et se tirer, je dirais, une balle dans le pied. Parce que s'il avait attendu quelques années et avait eu l'arme nucléaire, et franchement, il était vraiment très bien avancé, ça, en revanche, puisque la première guerre du Golfe a été gagnée par une coalition internationale qui ensuite a pu prendre connaissance de ce que les Irakiens faisaient, il est certain qu'ils n'en étaient pas si loin que ça.
Vous êtes en train de dire que s'il avait attendu un petit peu pour envahir le Koweït, et après, il aurait dit « Ah, attendez, j'ai un missile et donc je peux vous embêter ».
Vous savez, la possession d'une arme nucléaire...
Ils auraient sanctuarisé le territoire, oui, c'est ça.
Ça aurait été beaucoup plus difficile d'entreprendre une action comme celle qui a été faite, encore une fois, sur le plan international, avec le soutien de l'ONU.
Bon, quitte à refaire un peu de géopolitique, rappelons que le Koweït est une fabrication artificielle c'est un dessin sur une carte.
Ça a été un excellent... c'était quelque chose qui était contraire au droit international, et ils ont été... Il y a une coalition internationale pour l'obliger à se retirer du Koweït et ça a détruit la puissance militaire irakienne. Mmh. Cette puissance n'était pas reconstituée 10 ans après. Et par conséquent, la deuxième guerre du Golfe et l'occupation américaine cette fois, avec quelques alliés de l'Irak, a été extrêmement facile. Ce qui a été moins facile après, c'est de stabiliser le pays. Et on
qui
en
n'est,
est tout,
qui n'est toujours pas,
pas vraiment.
Donc,
il y a eu
55
morts. Il y a une chose qu'il faut
aussi
remarquer, c'est que c'est. On parlait de l'Iran. On aurait pu parler aussi de la Corée du Nord.
Oui, alors j'en ai parlé dans mon lancement, mais, effectivement, mais je faisais mais région géographique par région géographique.
Il y a une chose qui est intéressante, c'est que, bon, il y a cette question des armes nucléaires, des développements nucléaires. Vous savez, vous pouvez... Personnellement, je suis vraiment partisan d'arriver à empêcher l'Iran d'avoir une arme nucléaire parce que la prolifération n'est pas bonne. Je suis assez d'accord avec l'avis du général qu'ils en sont loin, qu'ils veulent pas forcément l'avoir. Ça, c'est autre chose. En revanche, ils ont un discours très menaçant. Ça les met dans une position... Ça met tout le monde dans une position très, très difficile parce que, comme ils ont un discours menaçant et qu'en même temps, ils refusent de se plier à ce que leur demandent les instances internationales en matière d'énergie nucléaire, ils se mettent dans une situation extrêmement difficile.
Mais est-ce que c'est pas des fins de politique intérieure?
Là-dessus, je voudrais quand même dire un mot. Bon, l'Iran, c'est elle qui se sent menacée. Hein. Il faut quand même, là encore, de la même façon,
il faut pas avoir une vision trop occidentale des choses.
J'étais 10 ans en Russie, les Russes se sentaient, avaient très peur des Américains. Et ils se sentaient menacés. Donc, les Américains ont présenté les Russes comme une grande menace, mais c'était eux qui se sentaient menacés. Alors, évidemment, ils avaient un discours très, très agressif.
À des fins de politique intérieure et de cohésion.
Oui, mais l'Iran, il ne faut quand même pas oublier, qu'est-ce qui a attaqué l'Iran? C'est l'Irak. L'Iran, jusqu'à maintenant, n'a attaqué personne. Bon, donc, aujourd'hui, on veut nous faire avaler l'histoire qu'il faudrait une attaque préventive contre l'Iran. Moi, je serais un officier iranien. Je pousserai mon pays à avoir l'arme nucléaire. C'est ma façon de sanctuariser mon territoire. La France l'a fait en son temps. Donc ça ne veut pas dire... Et en même temps, je suis entièrement comme monsieur partisan d'un désarmement nucléaire et d'une non-prolifération. Simplement, je ne peux pas accepter...
Vous êtes en train de nous dire que, on a une vision occidentale des choses.
Voilà, je ne peux pas accepter que l'on mène une guerre préventive pour désarmer un pays. Parce qu'à ce moment-là, on ouvre la porte à n'importe quoi. Autant première guerre d'Irak était justifiée parce que l'Irak a envahi le Koweït, autant aujourd'hui une frappe préventive sur l'Iran, pour moi, serait totalement illégitime. Et que l'on essaie de nous faire avaler ça pour que l'on dégage des budgets militaires pour faire un bouclier en disant l'Iran va menacer l'Europe, c'est ridicule. L'Iran, en gros, c'est 10 milliards de dollars de budget de défense. Les cinq premières puissances européennes, c'est 20 fois plus. Les Américains sont 70 fois plus. Donc, si vous voulez, il y a une balance.
Il n'y a pas de sujet.
Il n'y a pas de sujet.
Est-ce que ce n'est pas, finalement, on fabrique un méchant parce qu'on a besoin d'un méchant, tout comme on a eu besoin d'un méchant dans les décennies précédentes?
Je pense que le méchant, entre guillemets, fait tout pour apparaître comme le méchant. Je suis tout à fait d'accord avec le général sur un fait. Souvent, vous avez des pays, c'est le cas de l'Union soviétique, qui effectivement, en réalité, se sentent extrêmement menacés par les puissances proches. Donc, par exemple, là, Israël, ou bien sûr la puissance américaine. Mais il y a aussi un autre aspect. Quand vous êtes, par exemple, dans un pays comme l'Inde s'est dotée de l'arme nucléaire, mais c'est un pays qui n'avait jamais signé le traité sur la non-prolifération nucléaire. Et le point de vue des Indiens, c'est nous n'avons aucune intention d'utiliser l'arme nucléaire, mais nous ne voyons pas pourquoi il y a des traitements différents au plan international entre ceux qui ont le droit d'avoir l'arme nucléaire et ceux qui n'ont pas le droit. Donc nous avons la technologie.
Pour une nation de plus d'un milliard d'habitants, oui.
Et bien entendu, ils ont été soumis à des sanctions. Donc si vous voulez, actuellement aussi, il faut voir que l'Iran se situe dans un cadre où ses obligations internationales lui interdisent d'avoir l'arme nucléaire. Parce qu'il a accepté. L'Inde n'avait pas signé.
Oui.
Et ça, c'est un problème. Cette dissymétrie...
Excusez-moi du peu, mais là, on est quand même sur la géopolitique du bout de papier. C'est-à-dire que, t'as signé, donc tu peux, t'as pas signé, tu peux pas. Non, mais bien sûr.
Pardonnez-moi, mais on va quand même... Et ceci
les promesses
voulu.
N'engagent que ceux à qui elles ont fait.
Cela s'est voulu après la Deuxième Guerre mondiale. On va lentement vers quand même un système de gouvernance mondiale avec des puissances militairement dominantes qui sont effectivement les États-Unis, les puissances, certaines puissances européennes, la Russie encore. Mais malgré tout, il y a ce mouvement vers une gouvernance mondiale. La première guerre d'Irak, et c'est fait effectivement dans le cadre de l'OTAN.
Général Pinatel,
les actions actuellement en Afghanistan se font pas dans le cadre de l'ONU, mais sont autorisées par l'ONU et se font dans le cadre de l'OTAN.
Un mot à un soldat, c'est souhaitable ou pas une gouvernance mondiale?
Moi, je suis tout à fait... si vous voulez, je suis non seulement pour une gouvernance mondiale, mais je suis même pour une gouvernance mondiale des savants. Donc, si vous voulez... Donc là, je pense que si on veut sauver l'avenir de la planète, etc., pour moi, ça, c'est tout à fait évident. Bon, alors, mais là-dessus...
Donc confier la gestion du destin de l'humanité, non plus à des politiques, mais à des scientifiques.
Alors, ou des scientifiques qui ont acquis une certaine dimension politique. Mais ça, c'est un autre problème.
Eh bien, écoutez, je vous propose de voir cet autre problème dans la deuxième partie de l'émission, puisqu'il est juste l'heure de marquer une petite pause, et on se retrouve dans 2 minutes. Pour parler de ces sujets qui sont quand même assez complexes mais passionnants puisqu'ils déterminent notre avenir. À tout de suite, juste après la pause.
La voie est libre. 01 56 56 44 00. Qu'il soit d'Iran, de Turquie, du Caucase ou de Chine, il a traversé bien des époques. Aujourd'hui, il fait partie de votre patrimoine. Le tapis d'Orient.
Pour conserver ce bel héritage, la Clinique du Tapis propose un service de nettoyage et de restauration haut de gamme, réalisé à la main.
Offrez à vos tapis et tapisseries une seconde vie. La Clinique du Tapis, depuis 3 générations, 75 bis rue Michel-Ange, Paris 16e.
01 40 71 53 06. 40 71 53 06.
Déplacement et devis gratuits. Vous vous mariez prochainement ? Pour le plus beau jour de votre vie, la bijouterie Serge Banel vous propose l'un des plus beaux choix de bijoux mariage de Paris. Un choix vertigineux d'alliances classiques et fantaisies, d'alliances diamants, de solitaires, de bagues de fiançailles, plus de 500 modèles disponibles pour votre plus grand plaisir. La bijouterie Serge Banel est membre de la Guilde des Orfèvres. Bijouterie Serge Banel, 117 rue Saint-Charles, Paris 15e, métro Charles-Michel. Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 19h. Qu'il soit d'Iran, de Turquie, du Caucase ou de Chine, il a traversé bien des époques. Aujourd'hui, il fait partie de votre patrimoine. Le tapis d'Orient.
Pour conserver ce bel héritage, la Clinique du Tapis propose un service de nettoyage et de restauration haut de gamme, réalisé à la main.
Offrez à vos tapis et tapisseries une seconde vie. La Clinique du Tapis, depuis 3 générations, 75 bis rue Michel-Ange, Paris 16e.
01 40 71 53 06, 40 71 53 06.
Déplacement et devis gratuits.
Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
Vous êtes très sollicité et vos moyens sont limités. Aujourd'hui, nous vous demandons de faire le choix de Radio Notre-Dame. Parce que c'est un engagement utile, parce que c'est un média libre, parce que c'est la voix de la vérité et de la liberté, parce que c'est aussi une radio qui ne perçoit aucune aide, si ce n'est la vôtre. Envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, à Paris dans le 14e. Merci.
La voie est libre. 01 56 56 44 00.
Nous voici de retour en direct sur le plateau de La Voix est libre où nous parlons et on parle plus du concept de la guerre et de ceux qui la font que du seul sujet de la guerre des étoiles qui est notre sujet du jour dans La Voix est libre. 01 56 56 44 00, vous pouvez nous appeler pour témoigner, interroger nos invités, mais comme ils sont très volubiles, eh bien c'est difficile même pour moi de les interrompre. Juste avant la pause, on était en train de regarder les États-Unis qui finalement, vous me le rappeliez pendant cette petite pause, ce sont ceux qui ont fait le plus de guerres dans le monde sur les 200 dernières années. Général Pinatel, qui est avec moi en plateau, qui a écrit « Russie, Alliance Vitale » aux éditions Choiseul, qui est spécialiste de géopolitique et d'intelligence économique, et par ailleurs Alain Dupas, expert en politique technologique et stratégie spatiale, auteur notamment de « Demain, nous vivrons tous dans l'espace » aux éditions Robert Laffont. Alors donc, les États-Unis sont ceux qui sont la cause de tous nos soucis. Alors, aujourd'hui, finalement
Il faut bien distinguer dans les États-Unis les Américains, les États-Unis et le complexe militaro-industriel américain. Pour moi, et d'ailleurs, c'est pas moi le premier qui en parle, Eisenhower, après ses 2 mandats, a fait une déclaration solennelle au peuple américain, que je cite presque intégralement dans mon livre, dans lequel il mettait en garde la nation américaine contre le complexe militaro-industriel et américain. Donc moi, ce que je dis, c'est que souvent, les Américains, ce complexe-là, a une capacité à fabriquer la menace. Et donc, il faut...
C'est l'histoire de la guerre en Irak.
C'est la deuxième guerre en Irak. Donc, il faut avoir une capacité d'évaluation critique par rapport à ce qu'ils font. Ça n'a rien à voir. On est des alliés des Américains. Moi-même, si vous voulez, j'ai beaucoup d'amis aux États-Unis. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'ils nous disent. Et moi, je reproche souvent, à l'organisation de l'OTAN, et à tout ce qui sont, de n'avoir aucune évaluation critique par rapport à ce qu'on leur sert sur un plateau. Et donc, voilà. Donc,
Alain Dupin, un commentaire là-dessus.
Donc, personnellement, je suis un très grand admirateur des États-Unis qui, effectivement, d'abord, ont actuellement une puissance militaire incomparable dans le monde. La puissance militaire soviétique s'est quand même effondrée, même si la Russie reste une puissance nucléaire très, très importante et probablement souhaite retrouver une puissance militaire plus importante. La Chine est très loin encore du compte, mais on va en parler avec l'aspect guerre des étoiles. Les Américains ont un rôle très particulier dans le monde du fait de cette puissance militaire.
Oui, ce sont les seuls capables de se projeter partout, à plusieurs endroits à la
fois.
Vous
prenez par exemple les États-Unis ont... 10 ensembles navals autour de leur porte-avions, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'avoir des forces déployées absolument partout. Ça s'appelle vous avez un porte-avions et puis tous les bateaux qui vont bien autour. Oui. Ils en ont 10, la France
en
14, a 1.
Ils en ont 14.
Ils en ont 14. Les Français en ont un.
Un petit.
Les Anglais ont deux, mais pas des porte-avions, des porte-aéronefs.
La différence entre porte-avions et porte-aéronefs.
L'Inde va bientôt en avoir un, la Chine aussi. Mais si vous voulez, aujourd'hui, vraiment la puissance s'exprime d'abord par la capacité à se projeter, les Américains ont une avance considérable.
Donc ils peuvent porter la guerre à 10 endroits différents dans le monde.
Nos opérations en Libye l'année dernière, qui étaient largement des opérations franco-britanniques, n'auraient pas pu s'accomplir sans le soutien des moyens logistiques américains. Donc les États-Unis ont une position très particulière. Alors si on parle de guerre des étoiles, donc plutôt d'espace militaire, là vous avez un cas qui est absolument extrême, puisque à peu près 90% des budgets pour les activités spatiales militaires dans le monde sont des budgets américains. Donc, et d'ailleurs, c'est là où il peut y avoir un problème et où votre expression une nouvelle guerre des étoiles peut avoir un sens.
C'est super que les invités reviennent sur le sujet par eux-mêmes. Ça, c'est extraordinaire. Merci.
Tout simplement parce que les forces américaines dépendent complètement aujourd'hui ou très largement de leurs moyens spatiaux. Pour les informations, pour les télécommunications, pour la navigation. Et par conséquent, ce qu'on peut considérer comme des actions asymétriques. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les États-Unis, par exemple, qui mettent en œuvre des systèmes spatiaux qui ont des valeurs de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et en général, ce sont de très gros satellites, très chers et très sophistiqués. Eh bien, une menace asymétrique sur ces moyens spatiaux très chers, ce sont des petits missiles, finalement, qui seraient capables d'aller simplement détruire ces satellites. Et avec un missile qui va coûter probablement quelques millions de dollars au maximum, peut-être moins, capable de détruire un satellite qui en vaut des milliards. Et donc, c'est une chose aussi sur lequel il faut vraiment insister. C'est pas, on disait donc les États-Unis sont la puissance dominante dans le monde aujourd'hui, et je ne crois pas du tout à la thèse du déclin des États-Unis au XXIe siècle. Le XXIe siècle risque d'être encore un siècle américain, et ça ne sera certainement pas un siècle chinois. Mais
pourquoi pas un siècle chinois? L'auditeur à prendre.
On a une certaine tendance à toujours considérer qu'il y a des grands changements en cours dans la position des puissances internationales. Alors, il y a 20 ans, après la chute de l'Union soviétique, on disait, il y a le Japon et l'Europe qui monte. Alors le Japon, bah, son ascension s'est arrêtée, je dirais, même si le Japon reste un pays très économiquement très fort et techniquement très avancé. Puis l'Europe, ah bah oui, alors l'Europe, la plus saine grande puissance, c'est l'Europe. On voit aujourd'hui à quel point l'Europe n'est pas stabilisée, n'est pas en état de jouer un rôle pour remplacer, par exemple, les États-Unis. Je pense que tout ceci... Et alors la Chine, bah, on commence à voir en ce moment que la Chine a de sérieux problèmes politiques intérieurs et que sa croissance est en train de se réduire et que le modèle du développement économique chinois n'a peut-être moins d'avenir qu'on le pensait. Donc j'ai tendance à penser que les États-Unis ont en ce moment une position très large de puissance qu'ils vont garder pendant assez longtemps. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas parce que des pays sont moins, beaucoup moins puissants, qu'ils ne sont pas capables, avec ce qu'on appelle des menaces asymétriques, de porter des coups terribles aux adversaires qui peuvent être les États-Unis, qui peuvent être nous.
Général Pinatel. Et puis après, on prendra des appels d'auditeurs.
Oui, je suis tout à fait d'accord que pour dans les 20 prochaines années, la puissance américaine, les Chinois ont à peu près dans tous les domaines de pointe une vingtaine d'années de retard sur les Américains.
Paradoxe, la puissance américaine est financée à 60% par les Chinois qui achètent les bons du Trésor américain. Donc, on fabrique des porte-avions américains avec de l'argent chinois, ce qui est le gag.
Cela dit, la Chine progresse très vite et on le regarde en permanence et elle va d'abord se doter d'une capacité à contrôler les mers qui entourent la Chine. Et on voit déjà actuellement leur volonté chinoise d'exploiter toutes les ressources qui sont autour de la mer de Chine. Et on voit d'ailleurs la puissance américaine basculer complètement de toute la partie européenne vers le Pacifique. Actuellement, il y a un redéploiement complet des forces. J'en discutais hier avec des officiers américains. Il y a un déploiement complet des Américains vers la Chine. Donc, pour eux,
pour essayer de canaliser les volontés expansionnistes
chinoises. Pour eux, c'est très
clair
que tous les pays qui sont voisins des Chinois et qui ne partagent pas le modèle politique chinois ont peur du développement de la Chine actuellement. Et les Américains se positionnent, et d'ailleurs ils le disent ouvertement, comme leur protecteur.
Alors, deux appels d'auditeurs, et puis après on va revenir sur la guerre des étoiles. Lucien et Jean-Louis qui nous ont tous les deux appelés de Paris. On va commencer peut-être par Jean-Louis. Alors Lucien, voilà, bonjour.
Oui, bonjour. Merci pour votre émission. Voilà, ma question était de savoir si nos militaires prennent en compte, je le dis avec mes mots, je ne suis pas un spécialiste, le danger du terrorisme atomique. C'est-à-dire, je fais une hypothèse, des terroristes louent un appartement dans Paris, au centre de Paris, prédisposent des moyens de fabrication d'une bombe atomique artisanale, et au moment où on leur dira, par les moyens d'Internet ou autres, ils la font exploser.
La fameuse bombe sale.
Est-ce que cette hypothèse est prise en compte par nos militaires ?
Alors, on a noté votre question. On va prendre la deuxième et notre deuxième appel de l'éditeur en même temps. Merci infiniment. Donc ça, c'est la menace de la bombe sale. On va en parler juste après. Deuxième question, deuxième éditeur. Oui, bonjour.
Allô, bonjour. J'ai bien écouté tout ce que vous avez dit et ce qui m'a fait... Ce qui m'a touché, c'est la gouvernance mondiale. Sous contrôle de qui ? J'ai été 4 ans aux États-Unis et j'ai vécu avec eux. En fait, les Américains, ils sont encore dans le schéma, il y a les Indiens et les cow-boys. Pour eux, c'est les cow-boys, il y en a beaucoup qui sont des Indiens. Et comment imaginer une gouvernance mondiale alors que eux, ce qu'ils cherchent quand même, et ils l'ont montré en Irak, c'est dès qu'ils sortent de la crise irakienne, c'est de récupérer toutes les entreprises de pétrole qu'ils pouvaient. Donc, ils ne travaillent pas en gouvernance mondiale, ils travaillent quand même pour eux, numéro un, et puis un petit peu pour tout le monde.
Alors,
donc, comment imaginer ça avec eux ?
Merci infiniment pour cette question, c'est amusant parce qu'on en parlait pendant notre pause aussi, on disait effectivement que mes deux invités disaient que les Américains, en gros oui, ce sont effectivement des cow-boys, ils vont nous en reparler dans deux minutes. Alors, dans l'ordre, d'abord la fameuse bombe sale, c'est comme
non,
ça qu'elle s'appelle, c'est pas la bombe
lui,
sale.
Dans son idée, votre interlocuteur ne parlait pas de bombe sale, il partait de bombes atomiques qui seraient fabriquées comme les premières que nous avons faites. Bon alors déjà ça je le rassure, je suis moi-même physicien nucléaire, j'ai participé aux tests nucléaires, c'est pas quelque chose qui est à la portée de tout le monde. C'est, on voit bien même que l'Iran qui s'y emploie, c'est très difficile à faire. Alors là, je vais revenir plutôt sur la menace d'une bombe sale. C'est-à-dire de récupérer des déchets nucléaires qui sont que l'on pourrait récupérer à petite dose, parce que alors ça c'est excessivement contrôlé, et que l'on gramme par gramme que l'on récupérerait pour en faire, allez, disons 1 ou 2 kilos, et on mettrait de l'explosif autour et on balancerait ça dans un truc. Bon, c'est quelque chose qui est possible. Mais c'est quelque chose qui aurait quand même un effet très limité, qui n'a rien à voir avec une bombe
qui contamine quelques rues ou un quartier d'une ville comme Paris, par exemple. Mais qui fait des morts, qui provoque des...
ce serait l'explosif qui ferait des morts immédiatement. Après,
on est contaminé
par le... Il y aurait certainement une zone qui serait contaminée, qui devrait être à décontaminer. Bon, mais la décontamination aussi, c'est quelque chose qu'on fait. Dans une ville, ça ne pourrait pas aller très loin, parce qu'il y a des obstacles, et la dispersion, c'était fait avec beaucoup de vent, bon, c'est une menace.
Il y a un livre de fiction d'ailleurs qui envisage cette hypothèse.
Mais c'est une menace, c'est quelque chose qui est pris en compte. C'est pour ça que tout ce qui est déchets nucléaires est excessivement contrôlé. Bon, je suis d'accord avec l'interlocuteur, c'est quelque chose qui est pris en compte. Mais ce n'est pas une arme nucléaire que l'on trouverait dans un appartement de Paris.
Alors, deuxième appel d'auditeur qui nous disait en substance, bon, la gouvernance mondiale, très bien, mais les Américains, ils roulent pour eux, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on disait pendant la pause, on va faire parfaiter nos invités. Alain Dupart, et après Général Pinatel. Alain Dupart.
Je n'irai pas jusque-là. Les Nations Unies, qui ont été mises en place immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, et de la volonté des alliés qui venaient de gagner la guerre, qui sont, quelque part, malgré tout, je dirais, l'amorce d'une gouvernance mondiale.
Alors, c'est installé aux États-Unis.
Il faut remettre les choses dans leur contexte. En 1945, c'était pas aberrant d'avoir l'Europe était largement détruite.
Oui, les États-Unis.
L'Union
financent.
Soviétique avait certainement pas envie d'avoir une structure comme celle-là qui aurait nécessité une certaine ouverture de ses frontières là. Et c'était naturellement les États-Unis. Mais il faut quand même bien voir qu'il n'y a pas que le siège des Nations Unies à New York où se tiennent les réunions plénières et les réunions du Conseil de sécurité. Vous avez autour dans le système des Nations Unies toute une série d'agences qui prennent de plus en plus d'importance. Par exemple, l'agence qui s'occupe du contrôle de la prolifération nucléaire et qui est en Europe. Vous avez beaucoup de...
À Vienne, si je me souviens bien.
Oui, vous avez Vienne, vous avez aussi à Genève. Vous avez tout un système qui s'est mis en place, qui n'est pas forcément d'une très grande efficacité, mais qui est malgré tout un énorme progrès sur le passé. Et par exemple, lorsqu'il y a eu effectivement la première guerre d'Irak, eh bien le président Bush père a pris soin d'obtenir tout le soutien des Nations Unies pour conduire cette opération. Et la plupart des opérations militaires conjointes qui ont lieu dans le monde se font avec l'aval des Nations Unies. Vous regardez aujourd'hui ce qu'il y a comme casque bleu dans le monde, il y en a beaucoup. Et donc vraiment, je dirais que bien entendu, on est très loin encore d'une vraie gouvernance mondiale, mais on progresse dans cette direction. Et je suis plutôt optimiste, je pense, qu'il n'y aura pas les problèmes. Si vous voulez, le monde croit aussi, non seulement, croit en complexité. Il croit pas seulement en devenant plus dangereux. Je crois pas du tout qu'il soit plus dangereux, par exemple, qu'il était au temps de la guerre froide. Mais il croit en complexité. Et la complexité du monde devient telle que ce soit au plan économique, au plan stratégique, au plan politique. La complexité du monde imposera la nécessité d'une gouvernance mondiale. Et bien sûr, je dirais, la France, comme les États-Unis, n'ont pas envie de transférer à des instances internationales beaucoup de compétences. Mais peu à peu, ça viendra.
Général Pinatel.
Oui, après, si on prend sur une période historique, c'est-à-dire si on regarde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à maintenant, il est bien certain que l'Organisation des Nations Unies prend du poids. C'est tout à fait clair. Moi-même, quand j'étais officier, tout d'un coup, on nous a dit on va plus intervenir au nom de la France, on va commencer à se peindre en bleu et on va intervenir, puisqu'on a mis les premières forces en place au Liban. Ça nous a énormément choqués. Aujourd'hui, tous les jeunes générations qui font Saint-Cyr, etc., ils savent qu'ils passeront une partie de leur carrière sous la bannière de l'ONU. Donc, en tant que soldat de la paix. Donc, il y a, je suis tout à fait d'accord avec monsieur, on est totalement dans une avancée. Alors, cette avancée, elle va pas se faire sur une ligne droite. D'ailleurs, on a bien vu, les Américains se sont n'ont pas demandé l'aval de l'ONU pour la deuxième guerre d'Irak. Ils ont suivi, voilà. Mais néanmoins, dans l'ONU, les puissances émergentes, je pense au Brésil qui joue un rôle de plus en plus important. Je pense à l'Inde,
des pays qui demandent de siéger au Conseil de sécurité.
Voilà. Ouais. Donc
il
y a une évolution et cette évolution va dans le bon sens.
On rappelle juste à nos auditeurs que le Conseil de sécurité est figé à l'état de 1945 avec 5 membres permanents qui sont en gros les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et des pays comme l'Inde ne sont pas présents et n'ont pas de poste permanent, ni le Brésil ni d'autres pays.
Oui, d'où l'apparition des G7, des G20, des G20, etc. Mais effectivement, ce qu'il faut, c'est certainement ouvrir ce Conseil de sécurité et avoir des membres permanents qui représentent un peu
avec
mieux.
Les conséquences que l'on connaît pour la Syrie, le Conseil de sécurité est bloqué parce qu'il y a des voix qui vont contre l'avis d'une majorité. On va prendre un dernier appel d'auditrice et puis l'émission touche déjà à sa fin. Nous avons Marie des Hauts-de-Seine, une question, une réaction, un témoignage.
Oui, bonjour. Je voulais revenir à l'Iran, qui est un pays qui apparemment est un pays riche, qui possède beaucoup de ressources pétrolières, de gaz, etc., et qu'on ne voit pas comme menaçant le monde ou l'Europe ou je ne sais quoi. Or, comment se fait-il qu'on ait des journalistes français qui relaient également cette idée qu'il faut attaquer l'Iran parce que l'Iran est un pays dangereux et qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent « oui, l'Iran est un pays dangereux ».
Merci Marie pour cette question.
Parce que en plus, juste voulais terminer en disant que on connaît l'adage qui veut la paix prépare la guerre, mais c'est pas qui veut la paix attaque en premier.
Effectivement.
On déclenche la guerre.
Merci Marie qui vous patchem parabellum. Alors, général Pinatel.
On est aujourd'hui dans un monde dans lequel le poids médiatique est important, c'est-à-dire que le discours comme on le soulignait tout à l'heure, d'Ahmadinejad est particulièrement agressif, notamment vis-à-vis d'Israël et agressif vis-à-vis d'autres qui aussi le menacent. Bon, cela dit, le peuple iranien, Ahmadinejad, ce qu'on oublie, c'est pas parce qu'il est président de l'Iran qu'il a le pouvoir. Au contraire, aujourd'hui, son pouvoir est complètement atteint, puisque aux élections législatives du 2 mars dernier, c'est le guide suprême qui a eu 75% des sièges, et la plupart des partisans d'Ahmadinejad n'ont pas été élus, y compris sa propre sœur. Donc c'est un pouvoir qui diminue. Mais en même temps, comme je l'ai dit, les Américains ont intérêt à fabriquer la menace iranienne, d'abord sur un plan régional, parce que effectivement l'Iran menace Israël au travers du Hezbollah, pas les Israéliens, pas la survie de l'État Israël. Les Américains sont alliés à l'Arabie Saoudite et la suprématie du Golfe Persique, c'est toujours joué entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et l'industrie américaine a besoin de relancer des dépenses de recherche et développement qui sont maintenant...
qui font vivre des millions d'Américains.
Qui font des millions d'Américains et compte tenu de la crise qui existe aux États-Unis, risque d'être diminuée. Donc la menace iranienne tombe très bien. Et également... Ils ont en point de mire quand même les efforts que font les Chinois pour les rattraper sur le plan technologique. Donc toutes ces raisons font que la menace iranienne vient bien parce qu'elle satisfait des alliés régionaux et de l'autre côté elle permet de lever des fonds pour une menace future. Mais voilà, donc et tout le monde relaie ça parce que finalement la géopolitique est peu connue et intéresse peu de monde.
Alain Dupas, un mot là-dessus, et puis après on va se poser la question, ou plutôt on va répondre à la question, on n'a peut-être pas besoin de ce fameux bouclier antimissile dont on nous parle depuis quelques mois à nouveau.
Oui, d'ailleurs, il faudrait souligner que quand on parle effectivement de guerre des étoiles, quand on parle éventuellement de mettre des armes dans l'espace, il faut bien voir qu'il n'y a pas de séparation entre la Terre et l'espace, et que les missiles passent dans l'espace. Un missile intercontinental passe à 1500 km d'altitude à peu près, donc très largement dans l'espace. Et d'autre part, que les missiles antibalistiques qui sont construits pour intercepter des missiles sont tout aussi capables de détruire des satellites. Donc, il faut bien mettre effectivement tout ça. La défense antimissile et la militarisation de l'espace, c'est deux choses qui sont extrêmement liées. Je voudrais dire que donc j'ai souligné le fait que il y avait un pays qui dominait largement l'espace militaire. Il faut bien voir que l'Europe a beaucoup progressé dans ce domaine, avec d'ailleurs un objectif tout à fait compréhensible, c'est de ne pas dépendre entièrement des sources américaines pour un certain nombre d'informations, parce que le satellite de reconnaissance, il survole le monde entier, il peut photographier et observer tous les pays du monde, et ça permet par exemple de vérifier certaines informations américaines.
On est indépendant là-dessus, général Pinatel?
Aujourd'hui on l'est.
On ne dépend plus du bon vouloir des appareils photo
et du ciel américain. C'est la France qu'on a pris l'initiative, c'était dans les années 1980, il y a eu le programme Helios, maintenant il y a la suite, il y a le programme Pléiade, et franchement, les Allemands, les Italiens ont développé aussi des systèmes radars. Non, l'Europe est capable d'avoir des informations venues de l'espace sur les capacités militaires dans tous les pays dont on parle. Donc c'est très
sans
important.
Sans dépendre des Américains.
Par ailleurs, il faut bien voir que justement les puissances émergentes comme la Chine ou les puissances qui veulent exister comme l'Iran, ont un intérêt pour l'espace. Ils ont envie de mettre des satellites. Alors la Chine est déjà une grande puissance spatiale. Il faut voir que l'Iran est un pays qui a mis des satellites en orbite.
Pour répondre un peu à notre interlocutrice, pourquoi aussi on relaie fortement cela? Il ne faut pas oublier que le discours qui a été passé, on n'est pas contre ce bouclier antimissile si nos industries sont impliquées dans ce développement. Donc, vous voyez, on voit bien qu'il s'agit bien d'un problème de recherche-développement. Et tout le monde est à la recherche de crédit pour la recherche de développement.
Ils sont en train de nous dire que tout ça, c'est une histoire d'argent, finalement. Depuis une heure, à vous entendre, c'est une histoire de
mais
de,
ce n'est pas, en tout cas, la menace iranienne. Pour moi, elle est inexistante. Et la réponse que l'on veut y faire par le bouclier antimissile est inappropriée. Point barre. Alors ensuite, après, on peut trouver beaucoup de raisons pour dépenser de la recherche de développement pour l'espace. Et d'après moi, il y a beaucoup d'utilisations pacifiques de l'espace qui mériteraient qu'on y mobilise des fonds.
Merci infiniment. Donc c'était le général Jean-Bernard Pinatel. Allez, je vous invite à visiter son blog géopolitique-géostratégie.fr. Un mot, Alain Dupas, ça nous donnera une idée pour une prochaine émission. On va vivre dans l'espace, c'est inéluctable. On est obligé.
Non, on n'est pas obligé, mais vous savez, l'humanité a occupé la totalité de la planète, même les régions les plus extrêmes, et peu à peu, elle va occuper l'espace, s'y installer, et s'y installer économiquement.
Merci.
Donc, ça va devenir une zone... Non pas
d'expansion,
mais ça va être une zone qui aura besoin d'actes de
système
militaire.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.
Parole d'évêque. Tous les jours, un évêque différent répond aux questions de Clément Soudaille à 10h et 18h15. Actualité, vie de l'Église, la vie du diocèse décryptée par un évêque d'Île-de-France. Parole d'évêque, c'est tous les jours à 10h et 18h15.
Rien n'échappe à l'œil de Marc Baudrier.
Chers amis, il y a parfois dans le flot de paroles auquel nous ont accoutumés nos médias audiovisuels une